Ma chère Florence Aubenas, ici et ailleurs, à moins qu'il ne faille comprendre, ici vu d'ailleurs. Née à Ixelles, dans la banlieue de Bruxelles, en 1961, de Benoît, fonctionnaire européen, et Jacqueline, prof de cinéma, vous passez votre enfance et votre adolescence en Belgique, plat pays, terre de repli. Là-bas, je suis chez moi. Silence sur votre jeunesse, rien à déclarer, liquidez-vous. 18 ans, descente à Paris. Même vue de Bruxelles, Paris reste une ville lumière. Hippocagne, Cagne, fac de lettres à Nanterre.
Qu'est-ce que je peux faire?
Je sais pas quoi faire. Vous lamentez-vous comme Anna Karina dans Pierrot le Fou. Papa fronce les yeux. Je ne vais pas t'entretenir toute ta vie. Des concours, pourquoi pas? Le centre de formation des journalistes est le premier qui s'offre à vous. Vous êtes reçu. 1986, secrétariat de rédaction à Libération, longue nuit sur le marbre, fraternité des ouvriers du livre et des couches tard. On vous propose de faire du reportage, vous hésitez, vous plongez, j'ai vu la Vierge. Presque 40 ans que ça dure, sur tous les fronts, les combats se succèdent, ici comme ailleurs, contre la précarité, les virus, les Russes.
C'est vrai que j'ai eu l'impression de ne pas faire mon métier quand je restais dans mon bureau.
On peut être reporter de guerre, même en temps de paix. Pourtant, la guerre, vous l'avez payée de 5 mois de votre vie, prise en otage en Irak en 2005. Vous n'en tirez aucune gloire. Des EHPAD au rond-point, du Rwanda à l'Ukraine, de Tripouille les oies à Ouistreham, de Libé au Monde, d'articles en livre, vous ouvrez les guillemets aux gens ordinaires, comment leur tiendrez la porte? Votre style mélange le précieux détail et l'indispensable grand angle.
Il y a aussi question de la difficulté de travailler, de la dureté de la vie, parfois d'humiliation. Et je pense qu'on ne le comprend qu'en le partageant.
Spectatrice d'un monde troublé, vous restez sur la marge. Je suis une correspondante à vie. Ma chère Florence, laissez-moi vous dire que c'est le plus beau métier du monde.
Pardon, ce livre, dans Ici Ailleurs et dans ces reportages qu'on retrouve, donc, on va aussi en France au gré de reportages dans des endroits qui semble souvent un peu en difficulté, en souffrance. Je pense à un commissariat, à Sarcelles, où les policiers se plaignent de ne pas avoir assez de moyens pour travailler. Un EHPAD dans le Jura, où c'est un peu la même situation que rencontrent des aides-soignantes. Évidemment, les ronds-points, des gilets jaunes que vous fréquentez abondamment. Est-ce que vous décrivez un peu un pays un peu morcelé? On sait qu'il y a la fameuse formule du sondeur et sociologue Jérôme Fourquet qui parle de l'archipélisation du pays. C'est un peu ça, un pays où morcelé, en souffrance, où les gens ne se font plus confiance?
Oui, tout est vrai. Morcelé, en souffrance, les gens ne se font plus confiance. Tout ça colle. Et c'est vrai que ce qui est particulier, c'est qu'on a du mal à voir les autres. Et ça me frappe toujours parce que on me dit vos articles c'est sur les invisibles, mais vous les trouvez invisibles, vous les gilets jaunes ils sont plus que visibles.
Il suffit de les écouter en fait.
Il suffit de les écouter et c'est plutôt nous qui devrions être invisibles qu'eux. Et ça en dit long sur ceux qui les regardent plutôt que sur ceux qu'ils sont.
Mais les invisibles ce sont aussi les travailleurs, les femmes de ménage dans les bateaux, etc. Ce sont aussi eux que vous donnez à voir et que vous donnez à entendre, des gens qui veulent parler, veulent s'exprimer, veulent être entendus. C'est ça aussi la différence.
Oui, ils veulent être entendus, mais si vous voulez, ils ne savent pas forcément comment. Ils ne savent pas forcément ce qu'il faut dire. Et c'est très étonnant parce que, par exemple, sur les gilets jaunes, j'interviewais le maire d'une petite commune dont le rond-point était justement occupé. Et je lui dis, alors, sur ce rond-point, qui est-ce qu'il y a? Vous connaissez la commune? Elle me dit, c'est des gens, des très faibles revenus. Oui. Ça ne va pas fort, alors je ne vous cache pas, etc., etc. Donc, vous voyez le genre d'adjectifs qu'on met les uns après les autres. Et je vais sur ce rond-point et je dis aux gens, comment vous vous décririez? On est les classes moyennes. Oui. Donc les gens ne se voient pas forcément de la même manière. Et je trouve ça très frappant aujourd'hui en France. C'est que chacun a une image de soi, elle ne correspond pas à celle qu'on vous renvoie. Et c'est ces jeux de miroir et de chassés-croisés qui sont très étonnants aujourd'hui.
À ce propos d'image, l'image des journalistes, elle n'est pas grandiose, c'est vrai, dans notre pays. Et justement, vous l'avez expérimenté, vous en parlez par rapport aux gilets jaunes. À un moment, quand ces gilets jaunes vous filment, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes rendu compte de la manière dont les journalistes pouvaient être traités, même vous, par rapport à votre travail, face aussi à cette population en colère?
Bien sûr, il suffit d'aller dans une manifestation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des journalistes prennent des gardes du corps, par exemple, pour aller à une manifestation. Je vais en Ukraine, je n'ai pas de garde du corps. Donc ça paraît dingue quand on...
Il y a une vraie défiance à l'endroit des journalistes. Comment vous la surmontez, cette défiance, justement? Comment vous faites? Vous tendez le micro, en tout cas, vous ouvrez les guillemets et vous vous effacez totalement?
Oui,
vous...
puis je pense qu'il faut, se présenter, il faut dire ce qu'on est en train de faire. Et alors, je fais des choses que je ne faisais jamais avant, et j'aurais hurlé si on m'avait demandé de les faire. C'est par exemple pour cet article sur les gilets jaunes, j'ai fait l'article, donc je cite des gens, comme vous dites, j'ouvre les guillemets, et en fait, je les appelle après, je leur dis voilà ce que vous allez dire. Et je pense que jamais ils me font changer quelque chose, alors qu'ils pourraient après dire oh, comment ça, etc. Qu'il y a cette espèce d'effet de surprise, cette non-compréhension forcément qu'on va parler une heure, mais que trois phrases vont rester. C'est-à-dire, je pense qu'il faut faire comprendre aussi notre métier, et on ne le fait pas assez.
Et donc tout ce qui est entre les guillemets, vous le faites systématiquement relire.
Pas systématiquement, parfois je n'ai pas le temps. Mais quand je peux, je le fais, et je trouve que c'est bien plus respectueux de le faire pour eux que pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il sait ce qu'il dit, il est payé pour gérer sa communication, eux non.
Alors il y a la France, on en parlait un instant, il y a l'Ukraine aussi beaucoup, vous y êtes beaucoup allé depuis un an, à 5 reprises, 5 semaines à chaque fois, il y a beaucoup de reportages sur l'Ukraine. Vous dites d'ailleurs à propos de la guerre en Ukraine, c'est pas le premier terrain, pas le premier conflit que vous couvrez, mais qu'à la différence de conflits en Afrique, les journalistes français et occidentaux sont bien accueillis parce que vous ne représentez pas en tant que journaliste français l'ancien colonisateur, mais plutôt, vous dites, un ailleurs désirable.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis que je couvre des guerres, donc depuis le Rwanda en 94, que quand on arrive, on ne vous regarde pas comme un intrus. Vous êtes là depuis 2 minutes et vous représentez, et je l'assume tout à fait, d'être un occidental, d'avoir été un ancien colonisateur ou pas, de représenter l'OTAN, l'Europe, etc. C'est-à-dire les autres, l'autre côté du monde. Et donc ça sous-entend, quand vous êtes en Afghanistan, de ne pas sortir dîner parce que c'est problématique, d'être une cible quand vous êtes en Irak. Et ça, c'est très très particulier en Ukraine. C'est que pour la première fois, c'est dire « Ah, vous êtes européen, qu'est-ce qu'on a envie d'y aller ?» Donc vous dites « Mais vous êtes sûr ?» L'Angleterre, bon,
comme ça. Et vous évoquiez...
Qu'est-ce qui se passe, Florence Omna, quand on rentre de la guerre, comme il le décrit, ou quand on rentre de reportage, c'est-à-dire quand on pose ses valises après avoir vécu des choses folles, j'imagine?
Alors, on a un petit temps d'accoutumance. Alors, chacun a ses rituels. J'ai des confrères, par exemple, qui ont du mal à rentrer chez eux. Donc, ils se prennent 2 nuits d'hôtel à Paris.
C'est vrai?
Oui. Parce que il y a tout à coup une espèce de rupture. Moi, je me souviens, la première fois où je suis rentrée du Rwanda, justement, je me souviens, je me revois dans un taxi, évidemment, on rentre de l'aéroport. Donc, c'était assez tôt le matin. Et mon regard tombe sur, malheureusement, cette scène classique à Paris, un clochard qui dormait par terre. Et je le regarde, je me dis, ah mince, ici aussi, il y a le choléra, alors, c'est arrivé. Et il faut changer de focale. Il faut s'y efforcer.
Le journalisme, le grand reportage, c'est bien beau, Florence Omna, mais le journalisme, l'avenir du journalisme, c'est pas vous, c'est pas nous non plus, bien sûr. Vous allez voir. C'est un logiciel, Jean-Mathieu.
Bah oui, c'est le nouveau jeu dans les rédactions du monde entier. ChatGPT peut-il écrire des articles à la place des journalistes? Alors, à la fin de l'année dernière, le journal Les Échos a testé justement ChatGPT sur des sujets d'économie en lui demandant d'écrire un texte sur l'indemnité carburant annoncée par Elisabeth Borne en décembre. Alors, résultat, un article au style assez fluide, finalement, mais aux informations assez incorrectes, puisque pour ChatGPT, Elisabeth Borne est toujours ministre de la Transition écologique et pas Première ministre. Toutes les tentatives ont montré que les textes du robot comportaient des informations parfois loufoques, mais très souvent datées, sauf, par exemple, quand on tape le nom, votre nom, Florence Omnas, dans le ChatGPT, ce que j'ai fait. Et donc, quand on tape Florence Omnas, et bien, comme résultat, on obtient, elle est considérée comme l'une des meilleures journalistes de son pays et a remporté de nombreux prix pour son travail. Bref, ils sont assez forts, ces robots. Mais est-ce que vous avez peur un jour, finalement, d'être remplacé vous-même par ce type de technologie?
Non.
Non?
Non, je pense que la valeur humaine est irremplaçable. Et les journaux, c'est des gens, c'est des personnes. Et ça, c'est marrant. Et je vous invite à faire un autre test. C'est-à-dire, vous le faites, vous le commandez en anglais et vous le faites traduire par un autre logiciel.
Ouais.
Et alors là, vous êtes sur la Lune.
Ah oui.
Ah oui. Deux machines l'une après l'autre.
Ça marche pas. Ça fonctionne pas.
C'est très drôle.
Ouais. Et pourtant, il y a des tas de métiers déjà qui sont menacés ou qui ont été pour remplacer par des robots. Je pense notamment à un univers que vous racontez beaucoup aussi à travers vos reportages, les hypermarchés. Vous dites que vous faites souvent des reportages dans les hypermarchés. Les caissières sont parfois remplacées par des robots.
Oui, alors c'est assez marrant parce que mais c'est un vrai enjeu des supermarchés. C'est marrant que vous en parliez. C'est-à-dire que un patron de supermarché va vous dire, alors j'ai mes machines. Vont passer aux machines les gens qui veulent aller vite et qui pensent que la caissière est conne. Ouais. Et donc elle va pas y arriver. Elle va mettre beaucoup de temps. Là, je vais le faire moi-même. En général, ils mettent plus de temps que la caissière. Mais bon. Et ensuite, il y a les caissières et ils font maintenant des caissières la caisse slow. Et donc c'est quelqu'un qui veut parler. Donc, pour qui la sortie
au supermarché? Le contact humain, en fait.
Exactement.
Voilà, le contact humain.
Pour qui le passage à l'hypermarché correspond à une sociabilisation, comme j'ai dit.
Pour certaines personnes, c'est la seule fois dans la journée où ils vont
c'est
parler
exactement
avec
ça. Humain,
notamment les personnes âgées. Voilà.
Ou d'autres. Peu importe qui. Ouais. Et donc, elle est payée pour faire la conversation. Ouais. Alors, un peu un psychanalyste en tête de gondole.
Voilà. Donc, l'humain est irremplaçable.
L'humain est irremplaçable. Voilà.
Nadia, eh bien, c'est le soutien européen à l'Ukraine au menu d'un sommet.
Oui, un sommet inédit dans un pays en guerre. La moitié de la Commission européenne a fait le déplacement jusqu'à Kiev, le symbole est fort. C'est donc l'avenir européen de l'Ukraine qui est en jeu. On va y revenir en détail dans un instant. Les discussions également portées sur l'ampleur du soutien de l'aide militaire à apporter à Zelensky. Ces dernières semaines, on a vu que l'Union européenne avait musclé son soutien avec l'envoi d'armes lourdes, notamment également une nouvelle enveloppe de 500 millions d'euros. Aïcha Goulsert, est-ce qu'il faut fixer des limites à ce soutien, comme certains l'ont réclamé ces derniers jours, ces dernières semaines?
Non, mais je pense que ça va venir tout seul. Je pense que les États-Unis et l'Union européenne ne vont pas pouvoir tenir aussi longtemps cette aide, qui n'est pas seulement militaire, mais aussi financière et aussi humanitaire, c'est-à-dire avec les réfugiés. Et en même temps, je pense que moi, j'ai plus confiance en, par exemple, ce week-end, quand on a vu Madame von der Leyen dire qu'on ne quittera pas l'Ukraine, notre soutien est là à 100%, qu'un Joe Biden, ou bien, disons, qu'un gouvernement américain qui, aujourd'hui, pousse autant qu'il peut pour aider, mais qui, dans moins de deux ans, quand il y aura les élections, je ne suis pas certaine qu'ils vont continuer à
notamment parce que l'opinion américaine n'est pas forcément pour un soutien indéfectible.
Oui, mais je trouve que les Américains en parlent un peu plus que les Européens. Ouais. Les Européens sont un peu timides au sujet d'en débattre, j'ai l'impression.
Stéphane Debrice, il y a l'enjeu du soutien militaire, évidemment, qui a changé d'ailleurs de niveau, de statut avec la livraison de chars. Mais les Pays-Bas envisagent de livrer maintenant des avions de chasse plus loin.
Pas tout à fait. En fait, le Premier ministre a dit que rien n'était exclu. Mm-hmm. Donc si l'Ukraine fait la demande, les Pays-Bas vont étudier cette demande. Et dans ce cas-là, peut-être, il y aura en effet des avions de chasse. Et par ailleurs, Emmanuel Macron a dit plus ou moins la même chose au début de cette semaine. Il était à La Haye aussi avec le Premier ministre néerlandais. Il a dit rien n'est tabou.
Si rien n'est tabou, est-ce que ça veut dire d'ailleurs que les pays européens doivent envisager de changer leur outil de production? C'est-à-dire que si le soutien à l'Ukraine est long, si le conflit est long, est-ce qu'il faut que l'Europe aussi passe à une économie de guerre, en quelque sorte, change sa production?
Je pense qu'il y a déjà beaucoup de fabricants d'armes qui ont augmenté leur production. Pour l'instant, ils sont encore capables de faire face à la demande. Donc je pense qu'il est trop tôt de parler d'une économie de guerre. Et en plus, cette guerre, pour l'instant, elle ne coûte pas grand-chose relativement au budget des États. Pour la France a dépensé 2,5 milliards à peu près. Donc ça revient à 40 euros par Français. Ce qui fait un déjeuner dans un bistrot pour un an de guerre en Ukraine. Donc, c'est vraiment pas beaucoup.
Ça dépend quel bistrot. Ben oui,
un bistrot à la campagne.
Deux déjeuners,
voilà, 40 euros.
Si je peux me permettre, oui, peut-être que financièrement, ça ne coûte pas beaucoup pour les Européens, mais ça a un autre coût. Oui. Et c'est ça qu'on voit dans ce que, par exemple, Olaf Scholz, pendant plusieurs mois, ne savait pas. Tout à fait, ne savait pas s'il fallait absolument envoyer des chars ou pas. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer qu'ils soutiennent l'Ukraine. Mais je ne suis pas certaine qu'ils veulent montrer qu'en un sens, qu'ils ne veulent pas ce que Poutine, cette semaine, a parlé pour les 80 ans de Stalingrad, de la commémoration, en disant « nous avons de nouveau les chars allemands sur notre territoire ». C'est-à-dire que c'est pourquoi les Européens font très attention. Ce sera un autre coup, je pense.
Ils font très attention. Et en même temps, sur le plan symbolique, on sait que l'Ukraine frappe à la porte de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, du côté du président du Conseil européen, Charles Michel, on manifeste un certain enthousiasme, Nadia.
Oui, parce qu'en effet, l'Ukraine est officiellement candidate à l'adhésion à l'Union européenne depuis juin 2022. Elle veut aller très vite, elle le dit. Et voici donc ce que lui a répondu le président du Conseil européen. Une réponse très enthousiaste. On regarde, c'était hier.
L'UE vous soutiendra de toutes les manières possibles et aussi longtemps qu'il le faudra. Nous ne sommes pas impressionnés par le Kremlin parce que l'Ukraine et l'Union européenne sont une famille. L'Ukraine, c'est l'UE, et l'UE, c'est l'Ukraine. Faisons en sorte que...